Bonjour à tous, bienvenue sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine juste après Vibrosphèse. Pendant une heure, nous allons parler de l'actualité scientifique. Je m'appelle Jean-Noël et Biotine vous permet de vous tenir informé de l'actualité scientifique sur l'antenne de Graphite, sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM, graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet, en direct ou en différé, parce que vous avez bien sûr la possibilité de pouvoir récupérer les podcasts. Et puis vous suivez bien sûr l'actualité de Graphite sur les comptes Instagram et sur la page Facebook. Bien évidemment, nous sommes aujourd'hui le 29 mai. Au niveau de l'éphéméride, il y a une éclipse solaire qui est l'occasion pour Arthur Eddington, le 29 mai 1919, de confirmer la théorie de la relativité générale d'Einstein. Et donc, grâce à cette éclipse solaire, on a pu avoir une confirmation de cette théorie. Et le 29 mai 1953, c'est la première ascension de l'Everest par Sir Edmund Hillary et son Sherpa Tenzing Norgay, qui ont donc tous les deux gravi pour la première fois cette ascension de l'Everest. C'était en 1953. Naissance, le 29 mai 1695, d'Henri Pitot. C'est un ingénieur en hydraulique, il est français, il est l'inventeur de ce qu'on appelait le tube de Pitot, qui servait à mesurer la vitesse des fluides. En fait, il s'intéresse au problème des fluides, notamment à l'écoulement de l'eau dans les rivières, et il découvre que beaucoup de théories de son époque sont infondées. Nous sommes au XVIIIe siècle. Il invente ainsi un instrument qui va être destiné à la mesure de la vitesse des fluides. Donc, c'est ce qu'on appelait et ce qu'on appelle encore aujourd'hui le tube de Pitot, qui est employé dans de nombreux domaines. Et notamment, les sondes Pitot vous disent peut-être quelque chose. C'est ce qu'il y a sur les avions. En aéronautique, ça permet justement d'avoir des informations sur l'écoulement, entre guillemets, du vent. Et notamment aussi la vitesse. C'est un outil qui est encore utilisé aujourd'hui. Et donc, il date de cet ingénieur français Henri Pitot, né un 29 mai 1695. C'est quand même assez ancien. Plus proche de nous, il est mort le 29 mai 1987, le psychiatre, neurologue et écrivain français Jean Delay. Il a notamment, en tant que psychiatre, examiné Rudolf Hess lors du procès de Nuremberg. Il avait relevé à l'époque une amnésie hystérique. Jean Delay donc avait participé notamment à ce procès. Il est décédé en 1987 à Paris, un 29 mai. Voilà pour l'éphéméride. On n'a pas eu le temps d'évoquer lors des précédentes émissions de Biotine, comme on parle beaucoup d'espace, il était quand même important d'évoquer le décès. Alors, il y a maintenant un mois de ça et on n'a pas eu l'occasion dans cette émission d'en reparler. Il y a tellement eu de choses depuis au niveau de l'actualité scientifique dans cette émission qu'on n'a pas eu le temps de faire le point sur le décès de Michael Collins. Décédé à l'âge de 90 ans, c'était donc le 28 avril dernier. Et alors, on a évidemment en tête Neil Armstrong comme étant le premier homme à marcher sur la Lune. Nous sommes en juillet 69 et il est le premier, Neil Armstrong, à décéder en août 2012. Le premier de l'équipage Apollo 11 et le deuxième membre, c'est donc Michael Collins qui est décédé à l'âge de 90 ans. Le troisième homme, c'est Buzz Aldrin qui lui aussi avait marché sur la Lune mais en deuxième position. Il est toujours vivant et il avait adressé justement à l'occasion de la mort de Michael Collins un message assez émouvant. En fait, Michael Collins, c'est donc le seul de ces trois astronautes qui n'a pas eu la chance de poser le pied sur la Lune. Il était le pilote du module de commande et de service d'Apollo 11 et donc lui, il est resté en orbite autour de la Lune. L'occasion pour lui aussi d'avoir quelques mots qui sont restés dans l'histoire. Il évoquait notamment « Je suis seul maintenant, vraiment seul et absolument isolé de toute vie connue. 3 milliards d'humains d'un côté, 2 de l'autre. » Plus un, moi et Dieu seul, c'est quoi de plus de l'autre côté. Donc voilà, c'était aussi un petit peu symbolique le fait que ce troisième, eh bien, lui, il est resté en orbite autour de la Lune. Être si proche de la Lune et ne pas poser le pied dessus, c'était peut-être quelque part d'assez frustrant. Pas véritablement, parce que l'expérience l'a marqué évidemment à jamais. Et quelques jours avant son décès, à l'occasion de la Journée mondiale de la Terre, il avait confié sur Twitter, je cite, « Je suis certain que si tout le monde pouvait voir la Terre flotter juste devant sa fenêtre, chaque jour serait la journée de la Terre. Il y a peu de choses plus fragiles ou plus belle que la Terre, Travaillons ensemble aujourd'hui et tous les jours pour protéger notre chez-nous, disait-il quelques jours avant son décès. Et puisque cela semble avoir été sa volonté, eh bien, on peut se souvenir d'une vie pleine de sens, pleine de sagesse également. Pleine d'humour, c'était aussi le trait de caractère de Michael Collins. Alors, c'est pas uniquement le pauvre astronaute qui est resté si proche de la Lune mais qui a pas posé le pied dessus. Il était un pilote hors pair. Il a été l'un des piliers du programme spatial américain. L'astronaute français Jean-François Clairvoy avait également rendu un hommage il y a un mois en disant que c'était l'astronaute idéal, celui à qui on rêve de ressembler. Michael Collins est donc décédé et il était important dans cette émission de se rappeler à son souvenir et d'évoquer voilà, un petit peu toutes ces grandes heures de la conquête spatiale et notamment de la conquête de la Lune. On va parler des futures missions lunaires et martiennes parce qu'on va retourner sur la Lune et on va aller sur Mars. Tout ça se prépare en ce moment du côté d'Hawaï et on va écouter ça juste après un petit titre. Bien évidemment, vous êtes sur Biotine et sur l'antenne de Graphite. À tout de suite.
She holds you tightly and you say the same things to her that you've told me. I see it in your eyes, you don't belong to me when you leave my arms. Baby, baby, please don't give in to her charm. Baby, don't you give up on me, I was here for her.
When you leave my arms, c'était The Duchess and the Duke sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h pour vous tenir informés de l'actualité scientifique. Et je vous emmène donc à Hawaï, où il se passe des drôles de choses, notamment sur les pentes du volcan Mauna Loa. Et à plusieurs reprises, déjà, il y a des chercheurs qui se sont installés là-bas. Nous sommes à environ 2500 mètres d'altitude et ils se sont installés dans un dôme de 110 mètres carrés à peu près. Leur objectif, c'est de vivre ce que pourrait être la vie de colons humains sur la Lune ou sur Mars. Et donc, les équipes, elles partent pour des missions exactement comme si on était dans la réalité d'aller sur la Lune ou sur Mars. C'est-à-dire que le rôle de chacun est défini. Il y a donc un commandant de mission, il y a un officier des opérations, un ingénieur, un officier de communication scientifique et des spécialistes qui vont mener différentes expériences selon leurs qualifications. L'équipage inclut des personnes venant d'horizons différents, parlant de langues différentes et passant tout leur temps ensemble. Ils ne sortent de leur dôme que pour effectuer des expériences dans des tubes de lave et sont toujours équipés de leur combinaison spatiale, totalement semblable à celle que portent les astronautes lors de sorties extravéhiculaires. Ils sont gênés donc par des gants qui ne sont pas trop maniables, ils sont contraints par le risque de manquer d'oxygène, mais justement c'est un petit peu comme cela serait le cas pour des astronautes en mission lunaire ou mission martienne. Pourquoi s'imposer un tel supplice, on peut se demander? Eh bien, parce que sur la Lune, ou comme sur Mars d'ailleurs, les tubes de lave seront importants à explorer. Ils pourraient servir d'abri aux colons dans le premier cas et constituer également des cibles de choix pour la recherche en astrobiologie. Il pourrait en effet cacher ce qu'on appelle des biosignatures, c'est-à-dire peut-être des preuves d'existence de vie. Bio veut dire vie, donc on est dans l'idée d'une signature de la vie quelque part. Travailler avec de telles combinaisons rend tout plus difficile, tout prend trois fois plus de temps, mais nous devons nous entraîner pour trouver les meilleures méthodes et développer les meilleures combinaisons pour les astronautes de demain. C'est ce qu'explique Mikaela Musilova, qui est directrice justement de ce centre d'études spatiales à Hawaï. Et elle a évoqué cela donc il y a quelques jours dans un article de Futura Science. Mais justement, on essaye de se préparer. C'est la décennie 2030 qui nous... Là, en décennie 2020, on prépare l'exploration et le retour sur la Lune et l'arrivée sur Mars. Mais en 2030, on considère qu'on va pouvoir y aller. Donc si on considère qu'on va pouvoir y aller, il vaut mieux essayer justement de se préparer le mieux possible. Et l'idée justement d'aller à Hawaï, c'est en fait faire en sorte que du coup on est dans des conditions assez similaires, en tout cas on pense qu'elles sont assez similaires à ce qu'il peut y avoir notamment sur Mars, et donc en se mettant dans les mêmes conditions, on peut essayer de préparer justement la vie sur Mars, qui sera sûrement pas véritablement une partie de plaisir, mais en tout cas on s'y prépare dès maintenant, pendant cette année 2021. Voilà, vous avez bien compris que ce fil rouge que l'on a très souvent dans cette émission nous prépare également à cette exploration spatiale qui reprend beaucoup, beaucoup d'ampleur. On a parlé de Mars assez récemment. Il y a quelques jours l'arrivée également d'un rover chinois sur Mars également. Donc du coup, on voit très bien que la conquête spatiale sera aussi une conquête géopolitique au niveau du siècle, du 21e siècle. Et on suivra bien sûr ça de près. Autre chose et autre fil rouge dans cette émission également, on parle assez souvent dans cette émission de ce réchauffement climatique et assez régulièrement, je dirais presque toutes les semaines, on a toujours un article qui nous apporte une preuve supplémentaire, une illustration souvent assez dramatique de ce réchauffement climatique. Et là, on va parler cette fois des glaciers. Pour la première fois, il y a des chercheurs du CNRS qui ont travaillé également avec le CNES, le Centre National d'Études Spatiales. Et ces chercheurs sont parvenus à mesurer avec précision les changements d'épaisseur de quasi tous les glaciers du monde. Leurs conclusions ne sont donc pas véritablement réjouissantes, mais quelque part, elles sont aussi assez prévisibles. C'est quel que soit l'endroit de la planète, eh bien, les glaciers fondent aujourd'hui à un rythme record et un rythme qui s'accélère sous l'effet, bien sûr, du réchauffement climatique anthropique. Alors, quelques données pour essayer de mieux illustrer cet article. Au début du 21e siècle, donc entre les années 2000 et 2004, les glaciers du monde perdaient chaque année environ, on va dire, un petit peu plus de 220 milliards de tonnes. Beaucoup plus récemment, sur une même période de 5 années, donc là on est entre 2015 et 2019, eh bien, on est passé de 220 à presque 300 milliards de tonnes de glace qui fond chaque année. En d'autres mots, les glaciers se sont amincis de 36 cm au début des années 2000, et là ils ont perdu pas moins de 69 cm par an. En 2019, ce sont des données qui datent d'il y a 2 ans. Leur masse globale, elle a chuté également en moyenne. On perd plus de 200 milliards de tonnes par an depuis 2000, ce qui est quand même un chiffre assez colossal. Et c'est plus que la calotte du Groenland ou que celle de l'Antarctique, nous dit cet article. Et c'est assez pour déverser 50 cm d'eau sur l'ensemble de la France métropolitaine. C'est dire, on a là vraiment une illustration assez concrète de cette volume vraiment assez importante. Tous ces chiffres, en fait, les chercheurs les tiennent de l'analyse de plus de millions d'images prises par un satellite. Et ce sont les images de ces glaciers. On compte à peu près 220 000 glaciers répartis sur l'ensemble de la surface de la Terre. Et donc, grâce à 2 caméras, ils vont pouvoir récupérer des images, des couples d'images. Comme ça, ça leur donne un petit peu une vision 3D de la surface de la Terre. Et ces images ont permis aux scientifiques de créer des modèles numériques de l'élévation des glaciers avec une période spatiale et temporelle totalement inégalée. Alors, pour ceux qui travaillent dans ce domaine-là, ceux qu'on appelle les glaciologues, eh bien, ce travail change littéralement la donne parce que seulement quelques centaines de glaciers sont à ce jour surveillés de façon in situ, c'est-à-dire sur place. Évidemment, on ne peut pas surveiller sur place les 220 000 glaciers répartis dans le monde. Et ces données que l'on a pu avoir grâce à ces images satellites, eh bien, ça permet aux chercheurs d'essayer de mieux contraindre, d'améliorer leur modèle d'étude et pour mieux évaluer l'interaction entre le climat et les impacts sur les glaciers. Et donc, ces glaciologues notent ainsi d'ores et déjà que si des changements dans les régimes de précipitation expliquent certaines anomalies observées dans certaines régions du globe, par exemple en Scandinavie, eh bien, l'accélération globale de la perte de masse de ces glaciers, ça reflète clairement le réchauffement global de l'atmosphère. Alors, les chercheurs s'attendent également à mieux prévoir notamment quelle sera la contribution des glaciers à l'élévation du niveau de la mer et le phénomène souvent attribué à la fonte des glaces au Groenland et en Antarctique semble en effet être de façon assez substantielle liée à la fonte des glaciers. Bref, si toute la glace fondue depuis l'an 2000 a atteint l'océan, les chercheurs calculent en effet qu'elle a déjà contribué à faire monter le niveau des eaux de à peu près moins d'un millimètre par an, ce qui est peut-être en soi pas énorme, mais enfin, si vous prenez une échelle de temps beaucoup plus grande, là, ça peut devenir quand même assez inquiétant. Et ces chercheurs estiment par ailleurs que l'accélération du niveau de la mer, au XXIe siècle est due justement à cette perte de masse des glaciers avec une part non conséquente justement. Alors, il n'y a pas que ça, mais les glaciers sont quand même assez responsables de cela. Et donc, du coup, pour la première fois, on arrive à avoir des données globales sur une situation globale pour ce réchauffement climatique global. Voilà une illustration supplémentaire de ce que l'on évoque régulièrement dans cette émission. On a bien compris qu'il y a plusieurs défis à relever pour ce 21e siècle, avec plus ou moins d'importance. Le défi spatial, comme on l'a vu tout à l'heure, mais aussi le défi de l'énergie, de la transition énergétique et du développement durable pour essayer justement de freiner, de ralentir le plus possible ce réchauffement climatique. On continue à écouter un peu de musique, puis on se retrouve juste après pour parler cette fois de jeux vidéo. Et peut-être faire en sorte que l'intelligence artificielle essaye de nous faire gagner. Si c'était possible, ça serait pas mal.
Sure.
Elasticated Masterpiece. C'était Zip sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h pour vous tenir informé de l'actualité scientifique, de ce qui se passe dans l'espace, de ce qui se passe au niveau du réchauffement climatique, de ce qui se passe en médecine et de ce qui se passe aussi dans notre vie quotidienne, évidemment, avec deux petites informations qui nous permettent de nous intéresser un petit peu à l'intelligence artificielle. Et aussi aux jeux vidéo avec cette question, est-ce que la prochaine PlayStation sera capable de terminer les jeux à notre place ? C'est une question qui se pose depuis qu'on a appris que l'Office des brevets et des marques aux États-Unis vient d'accorder un brevet à Sony pour un système d'assistance en jeu basé sur l'intelligence artificielle. Alors, ce ne serait pas un simple robot comme il en existe depuis les premiers jeux en ligne, mais bien d'un système capable de prendre la place du joueur. Selon donc Sony, l'intelligence artificielle sera capable de contrôler les actions en jeu avec un profil par défaut. Alors toutefois, le profil sera ensuite personnalisé en observant la manière de jouer de l'utilisateur pour pouvoir ensuite essayer de reproduire son style personnel. Mais donc le joueur pourra laisser l'intelligence artificielle prendre les commandes lorsqu'il doit s'absenter un instant, par exemple quand il est dans un jeu en ligne qui ne lui permet pas de prendre une pause, ou alors s'il n'arrive pas à passer un obstacle. Et donc le brevet décrit également un genre de système d'assistance lorsque le joueur est bloqué, un système qui est basé sur une compilation automatique dans une base de données de toutes les actions qui ont été réussies par les joueurs sur ce jeu-là pour essayer de créer un petit peu soit des suggestions, soit des tutoriels. Et donc, si cette intelligence artificielle ne trouve pas de solution, elle va automatiquement transmettre une vidéo et une question à des joueurs experts. Et puis, l'intelligence artificielle va analyser toutes les réponses qu'elle va recevoir pour essayer de transmettre la réponse la plus appropriée au joueur. Et donc, ça peut être la réponse soit la plus courante, soit la plus rapide, soit celle qui prend le plus de risques, mais qui semble être la plus efficace. Et ces réponses, elles seront ajoutées au fur et à mesure dans cette base de données. On est bien dans l'idée, justement, de pouvoir automatiquement incrémenter cette base de données de réponses et d'informations. Si bien que pour les prochains joueurs, eh bien, s'ils rencontrent le même problème, ils auront ainsi déjà la réponse fournie par cette intelligence artificielle. Alors, Sony compte aussi partager les données collectées avec les développeurs afin qu'ils puissent savoir, par exemple, quelles tâches seront trop difficiles et essayer d'éviter de les inclure à l'avenir dans le jeu. Alors, on commence aussi à imaginer déjà des parties un peu multijoueurs qui seraient entièrement automatisées parce qu'on laisserait toutes les intelligences artificielles jouer entre elles. Alors, Sony a déjà pensé, mais le brevet, nous dit-on, indique une durée limitée pour l'utilisation de l'intelligence artificielle afin d'éviter ce genre de situation. Donc ça, c'est le côté un petit peu vertueux, évidemment, mais dans la réalité, on verra bien ce que ça donnera. En tout cas, voilà encore des avancées totalement assez intéressantes sur cette intelligence artificielle au niveau des jeux vidéo. Autre information qui concerne cette fois nos smartphones et ce qu'on appelle la lumière bleue, c'est la lumière en ondes courtes qui est générée par ces écrans de smartphone, des écrans qui sont des écrans soit avec les LED, donc les diodes électroluminescentes, soit même certaines ampoules, et on considère que cette lumière bleue empêche l'endormissement. On lui prête également d'autres effets un peu néfastes, comme ceux de réduire l'acuité visuelle, et également on lui prêterait aussi le risque d'augmenter le fait d'avoir la dégénérescence maculaire liée à l'âge, la DMLA, sur le long terme. Et il y a 2 ans, l'agence sanitaire ANSES avait souligné les risques liés à une exposition le soir. On s'en souvient, ça avait quand même assez fait parler il y a quelques années, évidemment, de dire que si on regarde trop longtemps notre smartphone, par exemple, le soir avant de se coucher, on peinera à s'endormir et on peinera aussi à avoir un sommeil réparateur. Et donc, du coup, il y a eu des actions qui ont été menées depuis quelques années pour essayer de réduire cette émission de lumière bleue, pour essayer de réduire cette fatigue oculaire. Il y avait Apple qui avait dégainé le premier en intégrant un système de mode nuit dans son dans son dispositif, dans ses logiciels, qui permettent justement d'ajuster les couleurs pour réduire ces fameuses ondes courtes. Et puis, il y a eu aussi Google qui s'est investi là-dedans, mais on a voulu en savoir plus, essayer de comprendre si, effectivement, ça avait un impact et de voir si ces solutions qui avaient été trouvées étaient bénéfiques. Il y a donc des recherches qui ont été menées, notamment par l'université Brigham Young. Nous sommes aux États-Unis et cette étude explique que cette fonction de mode nuit proposée notamment par nos smartphones n'améliore pas réellement le sommeil. Pour pouvoir le vérifier, il y a donc le professeur de psychologie Chad Jensen de cette université qui s'est associé à des chercheurs du Centre médical de l'hôpital pour enfants de Cincinnati aux États-Unis. Et ensemble, ils ont réalisé des tests de qualité du sommeil sur 3 catégories d'individus. Ceux qui utilisaient leur téléphone la nuit avec le mode nuit justement qui était activé. Ceux qui utilisaient leur téléphone le soir sans activer ce mode nuit. Et ceux qui n'utilisaient pas du tout leur smartphone avant de se coucher. On a donc ces 3 échantillons. Et sur l'ensemble de cet échantillon, alors on a fait ça essentiellement sur une population jeune âgée de 18 à 24 ans. Eh bien, on constate que sur l'ensemble, les scientifiques ont pu constater qu'il n'y avait aucune différence entre ces 3 groupes. Ils étaient 167 à avoir participé à cette étude. Donc là encore, je vous donne ce chiffre-là parce qu'il faut un petit peu relativiser, bien sûr, les résultats obtenus. On n'est pas sur une étude menée à grande échelle. Mais il n'empêche que sur cette expérience-là, on ne constate pas de différence sur ces 3 groupes. Les chercheurs, après ce résultat, ont réduit l'échantillon à 2 groupes selon leur durée de sommeil enregistrée précédemment. C'est-à-dire qu'il y a un groupe qui dormait environ 7 heures par nuit et l'autre qui dormait moins de 6 heures. Et dans le premier groupe, donc ceux qui dormaient plus longtemps, l'utilisation du téléphone a effectivement légèrement altéré la qualité du sommeil. Mais dans tous les cas, les individus qui n'utilisaient pas de téléphone avant de s'endormir ont bénéficié d'une qualité de sommeil supérieure aux autres. Au final, il ne semble pas que ce soit uniquement la lumière bleue seule qui empêche l'endormissement, mais peut-être simplement le fait d'avoir une activité sur un mobile avant de s'endormir. Donc il y a peut-être d'autres effets cognitifs qui sont stimulés et donc juste avant de s'endormir, c'est un petit peu difficile de pouvoir reposer son corps et son esprit. C'est un petit peu ce que explique cette étude. Voilà. Deux petites informations qui étaient intéressante parce qu'on n'a guère le temps de s'attarder sur ce genre de sujet dans cette émission qui passe vite parce qu'on a déjà une demi-heure de passé. Mais en tout cas, voilà, je voulais évoquer cela avant de revenir sur des choses un petit peu plus anxiogènes. Mais avant, on va écouter Régis Boulard sur l'antenne de Graphite. À tout de suite. Chien vert, c'était Régis Boulard sur l'antenne de Graphite. Vous nous écoutez sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM, graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet en direct ou en différé, car je rappelle que vous avez la possibilité de pouvoir récupérer les podcasts de toutes les émissions de Graphite, donc n'hésitez pas. Et suivez bien sûr l'actualité de Graphite sur la page Facebook, sur Instagram également, pour vous tenir informés de toutes les prochaines manifestations, les prochains événements prévus par Graphite. Donc ça vous permet justement, en suivant la page Facebook, de vous tenir un petit peu au courant de ce qui se passe au niveau de votre radio préférée. Bien sûr, tous les samedis entre 12h et 13h depuis un certain temps maintenant, c'est Graphite qui vous propose l'émission Biotine, l'émission d'actualité scientifique, où on parle un petit peu de tout et on a un petit peu l'impression de plus en plus que les informations scientifiques qui sont relayées par différents canaux de presse, on est un petit peu dans un exercice de revue de presse en fait dans cette émission, et bien ces articles donnent une image plutôt assez, comment dirais-je, pessimiste de notre situation sur Terre, parce qu'on a parlé tout à l'heure du réchauffement climatique, mais on en parle toutes les semaines dans cette émission avec des illustrations. Là, on va parler de la forêt amazonienne brésilienne qui est victime aussi du changement climatique et aussi victime des activités humaines. Et donc, on a eu des informations qui expliquent que cette forêt, elle émet plus de CO2 qu'elle n'en absorbe depuis 10 ans. En général, le principe d'une forêt, c'est de pouvoir capter ce dioxyde de carbone et de pouvoir, grâce aussi au principe de la photosynthèse, de pouvoir rejeter de l'oxygène. Et justement, on considère que la forêt amazonienne, vu son étendue, est un peu considérée entre guillemets comme le poumon de la Terre, justement grâce à cet effet de photosynthèse. Et donc, du coup, on considère que sans les forêts, eh bien, y aurait un dérèglement climatique qui serait encore plus dramatique, ou en tout cas beaucoup plus accéléré, parce qu'on a à peu près une estimation qui est que tous ces gaz à effet de serre qui sont produits par les activités humaines essentiellement, eh bien environ un quart, un peu plus d'un quart, est absorbé justement par ces forêts. Et donc si on n'a pas les forêts, on considère que ces gaz seraient encore beaucoup plus présents dans notre atmosphère, et donc du coup on va accentuer ce dérèglement climatique. Et on essaye de suivre un petit peu plus de près l'activité des forêts. Et depuis plusieurs années, les scientifiques s'inquiètent d'un genre d'essoufflement des forêts tropicales. Et les scientifiques craignent qu'ils aient moins en moins la possibilité de pouvoir jouer leur rôle justement de ce qu'on appelle puits de carbone. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir capter le carbone justement. L'inquiétude, elle vient notamment, comme je vous l'ai dit, de la forêt amazonienne qui représente à peu près la moitié des forêts tropicales de la planète. Alors, l'étude a été publiée au début du mois de mai dans la revue Nature Climate Change par une équipe internationale qui se penche notamment sur la forêt amazonienne brésilienne. Et le constat est donc sombre, comme je vous le disais, parce qu'on a considéré que pendant la décennie 2010, eh bien cette forêt a perdu de sa biomasse. Ça veut dire qu'en fait, les pertes de carbone de l'Amazonie, elles sont supérieures en gains. Ça veut dire que quelque part, la forêt emmagasine moins de carbone qu'elle n'en rejette. Alors si du coup, ça devient un système inverse, ça devient assez compliqué. C'est en tout cas ce qu'a précisé dans un communiqué l'INRAE, qui est l'Institut français de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Et l'un des auteurs qui travaille à l'INRAE et qui est français, Jean-Pierre Wigneron, explique que c'est la première fois qu'on a des chiffres qui montrent qu'on a basculé et que l'Amazonie brésilienne est émettrice. Pour l'instant, a priori, les autres pays compensent les pertes de l'Amazonie brésilienne, mais l'ensemble de l'Amazonie n'a pas encore basculé, mais elle pourrait le faire bientôt. Donc là, on se concentre uniquement sur la région brésilienne, la forêt amazonienne s'étend sur d'autres pays, bien sûr. Donc sur l'ensemble de la forêt amazonienne, ça va encore, mais si on se focalise uniquement sur la partie brésilienne, on se rend compte que c'est assez catastrophique. Jusqu'à présent, les forêts, et en particulier les forêts tropicales, nous protégeaient en permettant de freiner le réchauffement. Mais notre dernier rempart, l'Amazonie, est en train de basculer. C'est ce que met en garde justement Jean-Pierre Wigneron. L'étude met également en avant la responsabilité un peu méconnue, mais majeure, des dégradations de la forêt. Contrairement à la déforestation qui fait disparaître justement cette surface boisée, eh bien il y a des dégradations qui finissent également par l'abîmer sans totalement la détruire. Des arbres qui sont fragilisés en bordure de zones déforestées, des coupes sélectives, des petits incendies, la sécheresse également. Donc tout ça a également un impact global sur cette forêt. Et on a donc pour l'instant des informations assez alarmistes justement sur la forêt amazonienne qui émet donc plus de CO2 qu'elle n'en capte, qu'elle n'en absorbe depuis donc cette dernière décennie. Encore une illustration supplémentaire d'une situation qui commence à être véritablement inquiétante. Allez, on va parler, avant de retourner dans l'espace tout à l'heure, on va parler de Porsche, on va parler de véhicules électriques et notamment d'autonomie des véhicules électriques. On sait que c'est aussi un enjeu technologique assez important pour les prochaines années et pour l'instant, on essaye d'améliorer les performances de ces batteries. Alors, il y a d'autres composants qui peuvent jouer un rôle crucial dans cette quête d'une endurance qui est un peu plus élevée. On voudrait justement pouvoir améliorer l'autonomie des batteries, en clair. Et on pense notamment aux convertisseurs de puissance qui jouent un rôle central entre le moteur électrique et la batterie parce qu'ils se chargent de convertir le courant continu en courant alternatif. Il y a une équipe de chercheurs de l'Institut Fraunhofer qui pense avoir trouvé le moyen d'optimiser le fonctionnement de ce convertisseur en travaillant notamment sur son refroidissement. Le prototype qu'ils sont en train de mettre au point est susceptible d'améliorer l'autonomie des véhicules électriques de 6%, ce qui est finalement assez intéressant. Lorsqu'un véhicule électrique roule, eh bien, ou accélère, ou freine, il y a une grande quantité de courant qui circule via les transistors du convertisseur. Et du coup, ça va le faire chauffer, ce convertisseur, ce qui va entraîner une perte d'énergie. Et donc, ce que les chercheurs de cet institut se sont concentrés sur cet aspect en développant des transistors à base de carbure de silicium, donc un matériau spécifique, dont l'idée est qu'il va dissiper moins d'énergie. C'est bien que quand il va être traversé par un courant électrique, on va perdre moins d'énergie en chaleur, ce qui est un vrai défi technologique qu'il faut essayer de mener. Et donc apparemment, les prototypes qu'ils ont mis en place donnent des signes un peu encourageants. Les convertisseurs de puissance pour les voitures électriques sont refroidis à l'eau d'une façon générale, mais pour refroidir leurs transistors, eh bien, les chercheurs ont fait appel à l'impression 3D, et donc c'est là que c'est aussi intéressant de voir cette technologie qu'on a découvert il y a une dizaine d'années prendre encore une nouvelle application assez intéressante. Et l'idée, c'est de concevoir des éléments de refroidissement aux parois beaucoup plus fines. Et donc, ils ont positionné les transistors sur une plaque métallique de quelques millimètres d'épaisseur. Et grâce justement à cette configuration, grâce à ce design, on va dire global, eh bien les transistors sont plus proche de l'eau, si bien que ça augmente les effets de refroidissement. Et cet institut prévoit de tester ce convertisseur avec Bosch dans les prochains mois. Et donc ensuite, comme je vous le disais, c'est Porsche qui va pouvoir l'utiliser dans son nouveau groupe motopropulseur dans les prochains mois, nous dit-on. Donc voilà, on est dans une phase de prototype avec une espèce une phase un petit peu de d'essai en grandeur nature et ensuite peut-être d'industrialisation pour avoir ce convertisseur qui pourrait doper l'autonomie des véhicules électriques. Ça aussi, c'est l'avenir qui nous attend, bien sûr. Je vous dis que la science est vraiment fascinante parce que quelque part, elle concerne notre quotidien et notre futur. That's all. Don't know why.
And you know that my heart is waiting for a girl who is just shiny right now.
Flowers and Trees, fleurs et arbres, oui, c'est un lien avec peut-être l'Amazonie. C'était Sainte-Augustine sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h pour vous tenir informés de l'actualité scientifique. Et on va repartir dans l'espace parce que c'est vraiment là aussi que l'actualité scientifique se fait, peut-être parce qu'elle est aussi un peu spectaculaire et parce que derrière, il y a aussi des enjeux un peu géopolitiques. On a bien compris que le XXe siècle, c'était quelque part une confrontation entre les États-Unis d'un côté et l'Union soviétique de l'autre. Et la conquête spatiale a été une illustration de cela. On a l'impression qu'au XXIe siècle, cette confrontation va plutôt concerner les États-Unis d'un côté et la Chine de l'autre, si bien que chacun va communiquer et avancer et avoir également des programmes spatiaux assez spécifiques. Et on voit très bien que quelque part, il y a une course également qui se met en place. La Chine a dévoilé de nouvelles informations sur son programme d'exploration à la fois robotique et d'exploration humaine de la Lune. Elle a notamment détaillé son projet de station internationale de recherche lunaire qu'elle souhaite installer sur la Lune et tout cela en étroite coopération avec la Russie, l'ancienne Union soviétique. Elle revient avec la Russie et cette fois s'associe avec les Chinois. Les deux pays ont officiellement invité tous les pays et les organisations internationales à rejoindre ce projet d'installation durable sur la Lune. Alors, il y a 3 ans, la Chine avait fait une annonce un peu similaire en invitant les pays membres des Nations Unies à utiliser sa future station spatiale. Le premier module a été lancé en fin avril, on se souvient, on en avait parlé il y a 15 jours, je crois, ou 3 semaines, je ne sais plus, de ce morceau de fusée qui avait perdu le contrôle, les Chinois avaient perdu le contrôle de ce morceau de fusée et qui a finalement atterri sur la Terre. On se demandait un petit peu où, alors de mémoire, je crois que c'est au niveau de l'océan Pacifique, il me semble, ou l'océan Indien, mais en tout cas, il n'y a pas eu de conséquences dramatiques. Mais donc, du coup, c'était lié à la mise en place de cette station spatiale internationale. Mais l'objectif de cette initiative, c'est de pouvoir promouvoir la coopération internationale en matière de vols spatiaux habités et d'utiliser à des fins pacifique, nous dit-on, les capacités de cette future station spatiale. Alors cette fois-ci, la coopération proposée, elle s'étend au-delà de la simple utilisation de cette future base lunaire. La Chine, la Russie ne s'opposeraient pas, nous dit-on, à ce que d'autres partenaires puissent rejoindre ce projet et qu'ils puissent participer de façon active à son développement. Si la Chine veut s'installer durablement sur la Lune, c'est pas pour faire du tourisme ou pour faire de la science basique. La Chine a comme objectif affiché l'exploitation des ressources minérales et l'exploitation de la glace d'eau, notamment pour produire les consommables dont auront besoin les futures expéditions humaines à destination de Mars, ou soit à destination d'astéroïdes, voire peut-être même au-delà du système un petit peu interne. Alors, les États-Unis, qui vise aussi la Lune, avec notamment le programme Artemis, eh bien les États-Unis devraient suivre cette affaire de très près, notamment parce que d'autres pays alliés de Washington pourraient rejoindre le projet des Chinois et des Russes. Alors pour l'instant, les deux partenaires n'ont pas souhaité préciser le coût global du projet, ni les sommes qui ont été investies pour pouvoir l'amorcer. Les grandes lignes du calendrier ont été rendues publiques avec trois grandes phases. Alors la première phase consistera à localiser à proximité du pôle sud l'emplacement le mieux adapté pour construire cette base. Et pour cela, il y a donc des missions russes et des missions chinoises qui seront utilisées, et notamment la mission chinoise Chang'e 7, qui est annoncée comme étant très ambitieuse. Elle sera composée d'un orbiteur, d'un atterrisseur et déploiera à la fois un rover et une mini-sonde volante sur la Lune. Durant les années 2026 à 2030, c'est bientôt, c'est dans 5 ans, donc c'est demain, la construction de la base va débuter. Après, il y aura la mission Chang'e 8 et la mission russe Luna 28 qui vont se poser sur le site qui aura été choisi. Et troisième phase, on est cette fois à partir des années 2030 jusqu'à 2035. Eh bien, il y a plusieurs missions qui sont prévues pour accélérer la construction du site et une mise en service très progressive. Les premiers humains pourraient y vivre et travailler dès la seconde moitié du siècle prochain. Pour objectif, en fait, c'est d'avoir une présence humaine permanente dès la période 2036-2040. Donc, dans une quinzaine d'années, on envisage de pouvoir s'installer de façon durable sur la Lune. C'est en tout cas ce qu'a annoncé la Chine et la Russie dans un communiqué il y a quelques jours. C'était à peu près au début du mois de mai, oui. Donc oui, il y a peut-être 2-3 semaines, mais en tout cas, c'est un communiqué qui a fait beaucoup parler parce que, bien sûr, on commence à avoir de plus en plus de données précises. C'est-à-dire qu'on arrive à se projeter d'une façon un petit peu plus cohérente et réaliste en ayant cette fois des calendriers, des dates qui nous paraissent au premier abord assez lointaines, mais enfin 15 ans c'est rien, hein, objectivement au niveau de la science c'est quelque chose que l'on commentera peut-être, allez savoir, dans cette émission Biotine. Allez, on écoute un dernier titre et on terminera avec cette question, on restera dans l'espace et on ira sur Mars en se demandant si la vie pouvait exister finalement sur Mars aujourd'hui. On se pose la question, on voit ça tout de suite après The Fitzcarraldo Sessions.
song. Will she dare appear once more? Will she dare appear once more? There's a spirit with a back door key, spitting fire, burning holes through me. Don't you dare appear once more. Don't you dare.
Waves, c'était The Fitzcarraldo Station sur l'antenne de Graphite. Avant de nous quitter, car nous arrivons à la fin de cette émission, on va donc finir cette émission en retournant sur Mars en février dernier. Perseverance, qui est le dernier rover de la NASA, se posait sur le sol de Mars. On s'en souvient, on en avait fait une émission. Et l'objectif, c'était de chercher des traces de vie passées sur la planète rouge. Pour les premiers résultats, il faudra encore patienter un peu, mais il y a des chercheurs de l'université Brown aux États-Unis qui avancent aujourd'hui que des formes de vie microbiennes pourraient toujours exister dans le sous-sol martien. Et pour cela, ils s'appuient sur des données du rover Curiosity, également d'autres engins spatiaux en orbite autour de Mars, et aussi sur une analyse de la composition chimique des météorites martiennes. Ce sont ces roches arrachées de la surface de Mars qui sont arrivées jusqu'à notre Terre est a priori représentative d'une grande partie de la croûte martienne. Et selon donc ces chercheurs, eh bien ces roches mises en contact constant avec de l'eau seraient capables de produire l'énergie chimique nécessaire à soutenir des communautés de microbes, un peu comme cela se produit dans les profondeurs de la Terre. Nous ne savons toujours pas s'il y a eu de la vie sous la surface de Mars. Nous disons seulement que si cela était le cas, nous pensons qu'il y aurait aussi sur place suffisamment d'énergie pour la maintenir jusqu'à aujourd'hui. C'est ce qu'explique Jess Tarnas, qui est chercheur dans ce laboratoire spécial de l'Université Brown aux États-Unis. Alors, pour essayer de comprendre, rappelons que sur Terre, ou plus exactement sous la Terre, il y a dans les profondeurs une, ce qu'on appelle un biome. Donc il y a quelque part aussi, il y a de la vie à l'intérieur. Qui, ce biome évolue sans lien direct avec notre monde de surface. Mais les créatures qui peuplent ce biome manquent de lumière. Et elles tirent en fait leur énergie des produits des réactions chimiques déclenchées au contact des roches avec l'eau. Et le phénomène de radiolyse, par exemple, qui se produit lorsque des éléments radioactifs émettent des rayonnements qui séparent l'eau en oxygène et en hydrogène, eh bien, du coup, on peut avoir ce phénomène de radiolyse peut-être aussi sur Mars. En tout cas, les chercheurs espéreraient trouver dans le sol martien les ingrédients qui seraient nécessaires à ce phénomène de radiolyse. C'est-à-dire que des éléments radioactifs comme le thorium, l'uranium, le potassium, mais également des minéraux à base de soufre qui seraient susceptibles d'être convertis en sulfate, tout ça permettrait peut-être aussi d'avoir la possibilité de rendre cette vie sous terrienne, j'allais dire, donc sous-martienne entre guillemets, peut-être encore vivante aujourd'hui. C'est une véritable interrogation qui a été mise en avant dans cet article relayé par le site Futura, mais en tout cas on se pose la question de savoir si la vie a existé sur Mars et si elle existerait encore aujourd'hui. C'est dire que toutes ces recherches qui se font sur Mars actuellement vont nous apporter assez rapidement finalement des informations précises et soupçonné. On suivra ça, bien évidemment, dans cette émission Biotine tous les samedis. C'est la fin de cette émission du jour. On se retrouve samedi prochain à 12h sur l'antenne de Graphite pour continuer à feuilleter l'actualité scientifique. On sera en juin déjà, ça passe vite, mais nous continuerons bien sûr à nous tenir informés de ce qui se passe au niveau de l'actualité scientifique internationale. Que ce soit sur Terre ou dans les airs, on verra ça. Merci de votre fidélité et de votre attention. Passez une bonne journée. Dans un instant, la suite des programmes sur l'antenne de Graphite. À bientôt. Bonne journée.